Fi.fr.
Espace Océan, Ariel Cassim.
Bonjour. Bâtiment de projection et de commandement de la Marine nationale, le Mistral était en escale technique à Brest, au chantier des CNS pendant 4 mois. C'est à l'occasion de son retour en mer et de ses ultimes essais que nous avons eu le privilège d'embarquer l'espace de quelques heures sur ce navire qui se positionne entre guerre et paix. Le Mistral et le Tonnerre sont les plus gros navires de la Marine nationale après le Charles de Gaulle. Longs de 199 mètres sur 32 de large, ils ont été conçus aux normes civiles. Le Bureau Veritas a assuré la classification de ces navires qui sont aussi aux normes anti-pollution Marpol pour un budget total de 600 millions d'euros. Livré à la Marine nationale en mars 2006, le Mistral, tout comme son sister ship, le Tonnerre, est un navire hybride, construit par deux chantiers distincts et constitue ainsi un bon exemple de coopération entre industriels, comme nous l'explique Gérard Solve, le directeur service Brest de DCNS.
Ce navire a d'abord été conçu par les équipes de DCN Ingénierie, avec une association, avec les équipes d'ingénierie, aussi des chantiers de l'Atlantique. C'est la première fois qu'un navire était conçu à la fois sur des normes militaires pour la partie militaire du navire et sur des normes civiles pour la partie moins militaire du navire. Hein. Puisque dans les fonctions de ce navire, il y a des fonctions de transport de troupes, de transport de chalands, de transport de matériel de guerre. Et puis, il y a une fonction qui est de transport de personnel. Et donc là, on se rapproche plus d'un environnement paquebot. Donc toute la partie avant a été conçue, réalisée par les chantiers de l'Atlantique, alors que toute la partie arrière a été conçue et réalisée par des CNS. Donc la partie arrière a été réalisée à Brest, la partie avant a été réalisée à Saint-Nazaire, et la partie de Saint-Nazaire est arrivée à Brest, et ensuite eh bien, les équipes de DCNS ont mis ensemble les deux morceaux et ont achevé le navire, comme on dit, hein, c'est-à-dire finir l'ensemble des équipements, en particulier la partie système de combat.
Les rapides Zodiac de la Marine nationale, qui étaient venus nous chercher dans le petit port de Morgat, sont entrés directement dans le bateau par la porte arrière basculante d'un grand bassin rempli d'eau, surnommé le radier. Le Bosco et son équipe ont assuré notre débarquement et ensuite nous assisterons avec l'aspirant Marie-Dominique Bourdin au déballastage du bassin.
On peut y aller, ça va.
Abri Roméo, début de déballastage, on déradie la dernière embarcation.
On déballaste et on ballaste de quelle façon?
Alors c'est un système de pompe pour enfoncer le bâtiment. Nous possédons une citerne passive d'environ 1400 tonnes qui se situe sur l'avant, que l'on remplit pour mettre la capacité, c'est-à-dire l'espace radié, au niveau de l'eau. Et ensuite nous avons des capacités qui sont des ballastes, qui sont de grands réservoirs, que l'on remplit à l'aide de pompes. Ils vont permettre l'enfoncement. Ils sont répartis de part et d'autre du radier de sa partie arrière en allant vers l'avant avec des capacités multiples, ce qui nous permet d'effectuer un réglage, bien entendu. On remplit, on ouvre la porte pour aider justement l'apport d'eau de mer. Ensuite, on règle en fonction de la hauteur de ce que l'on va rentrer en tirant d'eau pour les bâtiments amphibies ou voir les engins sur coussin d'air. Pour le déballastage, c'est la manip inverse. C'est le lavabo qu'on vide tout simplement comme à la maison.
C'est super, hein, cette porte qui se referme derrière.
Oui, c'est très impressionnant. La porte du radier, comme ça qu'on ouvre en pleine mer, enfin avec 2 mètres de hauteur, c'est quelque chose. On a la solution aussi de ne pas remplir le radier, on ouvre la porte et dans ce cas-là, les chalands de débarquement viennent directement à la porte du radier et on embarque comme ça des véhicules, des soldats. Voilà.
En compagnie de Christophe Dorignac, chef de projet essai de DCNS, nous allons maintenant pénétrer dans le ventre de cet imposant bâtiment, dans le cœur même de sa propulsion.
Il y a ces 3 diesels principaux-là. De plus, vous avez un diesel auxiliaire qui se trouve au-dessus du pont 2, c'est-à-dire au-dessus du pont de compartimentage. Imaginons une voie d'eau importante dans le local machine. Nous avons besoin de pouvoir produire l'énergie au-dessus du pont 2. Et enfin, un petit diesel de secours qui se trouve dans l'îlot. et qui lui sert en cas de ce qu'on appelle le blackout. C'est le cauchemar de tout marin, c'est-à-dire perte d'énergie et diesel cabane, et on se retrouve dans le noir complet. On a une demi-heure pour pouvoir redémarrer le navire. Donc on a développé un système automatique qui permet en 1 minute 30, logiquement, si tout se passe bien, ce qui est le cas actuellement puisqu'on a testé ces fonctionnalités, de redémarrer l'ensemble du navire. Alors nous allons accéder donc au local machine, qui est l'endroit où l'on produit la majorité de l'énergie du navire.
Il faut mettre des boules caisses maintenant.
En dessous les diesels, nous trouvons l'usine électrique. Le navire produit du 6600 volts, qui lui ensuite donc, permet d'alimenter la propulsion, permet d'alimenter le propulseur d'étrave à l'avant, ainsi que ce qu'on appelle les frigo-air, qui permettent d'avoir de l'eau réfrigérée à bord. Ensuite, via des transformateurs, nous transformons la haute tension en basse tension de manière à alimenter l'ensemble des équipements de taille plus modeste et qui ne nécessitent pas de haute tension. Donc, nous allons rentrer dans cette usine électrique qui est composée de deux bords symétriques et qui permettent de fonctionner sur un bord ou sur l'autre en cas d'avarie.
Donc personne ici qui travaille?
Alors, personne ici, sauf pour opération de maintenance bien entendu, mais l'ensemble de la conduite est centralisée par trois personnes au niveau du PC navire.
De la passerelle de navigation arrivent les ordres de marche du navire.
La passerelle donne son allure et ses volontés en termes de route et de machine. C'est la passerelle qui va décider en fait de la priorité, de la vitesse de navire, etc. Et à ce moment-là, donc le commandant et ses équipes disposent l'ensemble des installations de manière à répondre au commandant.
Quel est votre rôle ici?
Moi, je suis dans le groupement énergie, dans le groupement navire exactement, et je suis à la mer au QN, officier de quart navire. Je suis chargé de la conduite des installations de propulsion et de la sécurité à bord pendant mon quart. Et donc là, je vais entamer une procédure de démarrage de la propulsion.
Et ça consiste à...
À remettre en route les pods, ce qui sert de propulsion à bord du bâtiment, en remettant les transfos d'alimentation, en redisposant les auxiliaires qui permettent le démarrage de cette propulsion.
Alors, le commandant, s'il veut optimiser donc son cubage de gasoil, va plutôt transiter aux alentours de 11 à 12 nœuds.
Et lorsqu'il est chargé avec hélicoptère, la vitesse maximum est évidemment diminuée.
Est éventuellement diminuée, mais sa vitesse dite de croisière reste la même, c'est-à-dire aux alentours de 11 à 12 nœuds, qui est le fonctionnement optimal des machines.
Le Mistral est le premier navire militaire français à propulsion électrique et à disposer de deux pods que nous présente maintenant Christophe Dorignac.
Nous trouvons dans le premier des deux locaux propulsion qui se trouve sur tribord et qui recèle l'ensemble des installations dites électriques du pod. Donc qu'est-ce que c'est qu'un pod? De manière imagée, c'est un gros pédoncule ou une grosse nacelle qui se trouve sous la coque à l'arrière du navire, un de chaque côté, qui tourne sur son axe vertical à 360 degrés, qui a en bout une hélice, qui est orientable dans n'importe quelle position. Donc cela permet, je dirais, une manœuvrabilité du navire bien plus importante que dans les navires dits standards avec propulsion à ligne d'arbre et safran.
La propulsion du navire aussi vient de ses pods, hein.
Alors, il y a deux organes de propulsion, d'une part les pods et d'autre part le propulseur d'étrave qui se trouve à l'avant et qui permet d'aider les pods en dirigeant le nez du navire. On se trouve actuellement au milieu du navire, au pont 5, donc dans la zone hôpital, qui s'étend sur l'ensemble d'une tranche du navire et qui permet, je dirais, à la fois d'opérer, de traiter, je dirais, des cas relativement importants et aussi une fonctionnalité importante de pouvoir être assisté via la vidéo par des médecins et des spécialistes terrestres de manière à traiter des cas particuliers, sensibles, en cas de besoin de conseils pour le médecin du bord.
Sur 750 mètres carrés de pont, le BPC Mistral dispose donc d'un véritable hôpital pour des missions humanitaires de grande ampleur. Un service qui est placé sous la direction du médecin du bord.
Vous pourriez tout à fait avoir l'impression d'être dans un hôpital.
Avec combien de lits?
70 lits avec deux blocs opératoires qui peuvent fonctionner simultanément et une salle de radiologie dans laquelle potentiellement on peut mettre un scanner. Alors à bord, il y a toujours un médecin et deux infirmiers, mais on a la possibilité au sein de la force d'action navale général de faire appel à l'élément chirurgical embarqué. L'élément chirurgical embarqué, c'est un médecin réanimateur, deux chirurgiens, un viscéraliste, un orthopédiste et cinq personnels paramédicaux, infirmières, techniciens de radiologie, techniciens de laboratoire, qui vont armer la partie chirurgicale de l'hôpital. Et si on doit faire ce que les anglo-saxons appellent du damage control, c'est-à-dire sauver la vie du blessé immédiatement, on doit être capable de l'opérer dans l'heure qui suit la blessure. Et c'est cet objectif-là qui est tenu par les antennes chirurgicales ou l'élément chirurgical embarqué.
Le BPC dispose pour ses opérations aéromobiles d'un système de communication adapté à ses exigences. Outre la gestion des vols des hélicoptères et de l'organisation du bord, le bâtiment dispose pour les états-majors embarqués d'une salle de 850 mètres carrés pouvant accueillir 150 postes de travail. Mais que se passerait-il en cas d'attaque nucléaire ?
Le bateau se protège totalement de ce type d'agression, à la fois donc en créant une surpression à l'intérieur du navire et à la fois en arrosant de manière cyclique l'ensemble des extérieurs pour rincer le navire et déposer, je dirais, les nuages et les fixer. Le navire est équipé d'un sas dit de décontamination qui permet d'extraire une personne qui serait en difficulté à l'extérieur et de la passer dans différents stades de passe pressurisés de manière dégressive et permettant de rentrer un blessé à l'intérieur du navire.
Alors la porte maintenant qu'émet, on peut passer, c'est jaune, on est tranquille.
Voilà, donc je vous propose d'ailleurs de le faire tout de suite. Christophe d'Aurignac pour commandant.
Le commandant écoute.
Donc je te demande l'autorisation pour monter sur pont d'envol et rejoindre la passerelle.
Ah oui, bien sûr.
Il va nous ouvrir la porte.
Depuis un an, le capitaine de vaisseau Gilles Humeau est aux commandes du Mistral. Il avait été second commandant lors de l'opération Baliste au Liban, une opération humanitaire qui fait partie de celle attribuée au BPC Mistral.
Le Mistral est avant tout un bâtiment multimission, je dirais, c'est-à-dire qu'il a un grand nombre de capacités qui, en fonction de l'agencement et de l'utilisation qu'on en fait, permet d'obtenir des effets les plus divers. C'est un bateau qui est capable de commander des forces, donc il y a une zone de commandement qui permet de commander soit des militaires, soit d'autres opérations, quelles qu'elles soient d'ailleurs, peu importe. C'est un porte-hélicoptère de très grande dimension, capable de mettre en œuvre 6 hélicoptères simultanément, c'est pratiquement le même ordre de grandeur que ce que l'on retrouve sur un porte-avions. C'est un bateau amphibie de bonne facture, capable d'héberger en gros 120 véhicules et 4 chalandes de transport de matériel pour aller vers la plage. Alors pour ce qui concerne l'autonomie du Mistral, c'est un bateau économique, dirais-je, avec des grandes soutes, ce qui fait qu'on peut assez facilement envisager d'aller de Toulon jusqu'à Singapour sans ravitailler en gasoil. Et pour ce qui concerne le carburant des hélicoptères, écoutez, on n'a encore jamais refait le plein depuis sa construction, donc je ne saurais pas vous dire.
Donc très économique et très écologique hein, aussi.
Oui, alors l'écologie fait partie des maîtres mots de ce bateau puisque nous respectons stricto sensu la norme Marpol qui fait que ce bateau ne rejette rien à la mer que de l'eau et des cendres. Nous traitons tout le reste des déchets à bord, ce qui ne peut pas être traité, stocké et débarqué quand on arrive au port.
Vous avez participé à une très belle opération qui s'est déroulée au Liban.
Oui, en fait, j'étais commandant en seconde du Mistral lorsque nous sommes partis au Liban à l'été 2006 pour aller rechercher des ressortissants français et étrangers qui désiraient quitter le pays. Et nous avons ainsi transporté 4700 personnes, un peu plus, de Beyrouth jusqu'à Larnaca à Chypre et Mersin en Turquie. On peut héberger 450 personnes en plus de notre équipage sans aucune difficulté.
À la passerelle de navigation, la concentration était intense au moment des essais. Car il faut savoir que grâce au pod et au propulseur d'étrave, le BPC Mistral bénéficie d'une grande capacité de manœuvre, une qualité essentielle pour des bâtiments amenés à des opérations d'embarquement ou de débarquement. Au pupitre de commande, l'homme de barre exécute la manœuvre.
On a l'affichage de la route surface et de la route fond en permanence sur la cartographie électronique. Ici, vous avez un système de gestion des pods, aussi bien en barre, parce que vous n'avez pas de safran sur le bateau. Hein, c'est uniquement, vous pouvez présenter ça à la limite comme un morteur hors bord sur un Zodiac, hein, à part que là, vous le tournez carrément sur 360 degrés. Quoi. Donc, vous avez à fois la barre et la commande de la propulsion sur ces leviers. Ici, c'est la commande du propulseur d'étrave. Donc là, ça a une poussée de 17 tonnes sur l'avant, alors que les pods ont chacun une poussée de 150 tonnes sur l'arrière. Donc on a une très très bonne propulsion sur l'arrière au niveau des pods. Au niveau du propulseur d'étrave, elle est un petit peu moindre, limitée à 17 tonnes. Ça veut dire qu'au-delà de 22 devant, on est obligé d'avoir l'aide des remorqueurs en pousseur sur l'avant. Comme vous pouvez vous en rendre compte, on est situé à 64 mètres de la proue, à 136 mètres de la poupe. Donc en fait, il y a deux tiers qui se situent derrière nous du bateau en longueur. Donc c'est essentiellement cette partie-là qu'il faut surveiller lorsque vous manœuvrez.
50. En fait, tous les 10 degrés, je dois ce qu'on appelle chanter les caps pour que le chef de car n'ait pas à suivre sur son image, il est à suivre le reste. C'est ce qu'on appelle la barre en fait.
40, 30.
Jean-Paul Mélaza, essais concluants.
Ah, les essais sont tout à fait concluants. On est pleinement satisfait des essais que nous avons réalisés sur ces dernières 24 heures.
Et là, on est en train de faire une manœuvre particulière. On tourne à 90 degrés.
Oui, en fait, on a fait 180 degrés, c'est-à-dire un demi-tour, de manière à voir si le taux de giration est cohérent par rapport aux qualités du bâtiment.
Et là, c'est fou. On n'a rien senti à peine. Ça a légèrement gité. Il n'y a pas de stabilisateur. Donc, tout va bien.
Et c'est pleinement réussi. Et la barre est manuelle. Hein, il n'y a absolument rien d'automatique. C'est le barreur qui maîtrise l'évolution du bâtiment.
Pénélope Lamy, on est ici à la passerelle. Vous êtes adjointe de car et puis là, on est en train de vivre une manœuvre un peu particulière. Alors, quel est votre rôle à vous? Je vous vois ici devant cette carte.
Mon rôle, c'est de faire les points sur la carte et de remplir les journaux pour soulager le chef de car, en fait.
Les cartes papier sont encore utiles?
Oui, on n'a pas encore le droit de naviguer sans, en fait.
Bertrand de Cacré, vous êtes capitaine de corvette. Nous sommes à bord donc de ce Mistral qui est en pleine manœuvre en ce moment. C'est un bateau qui est aussi un bateau équipé pour sa défense.
C'est un bâtiment qui possède effectivement quelques armes d'autodéfense, notamment 4 mitrailleuses 12-7 et 2 affûts Simbad. Donc ce sont des affûts anti-aériens de très courte portée, mais qui sont par contre très efficaces pour des aéronefs volant à basse altitude. Bon, ceci étant dit, ce bâtiment, s'il intervient dans le cadre d'une opération amphibie, n'ira pas seul, évidemment. Et une opération amphibie ne se comprend qu'accompagnée par des bâtiments de lutte anti-sous-marine, de lutte anti-aérienne, voire de lutte anti-surface, pour protéger les opérations amphibies proprement dites.
Nous remontons maintenant en surface, sur le pont d'envol de 5200 m² qui comprend 6 spots permettant la mise en œuvre d'hélicoptères de tout type. 16 hélicoptères peuvent être stockés dans un hangar de 1800 m², accessible par 2 plateformes élévatrices. Et nous y retrouvons Christophe, responsable d'essai sur ce pont d'envol.
On est en train de vérifier la conformité de l'installation, vérifier que tout marche bien, que les vitesses sont correctes, que toutes les sécurités sont actives, afin que la marine soit pleinement satisfait de l'équipement.
En combien de temps vous faites monter cet hélicoptère jusqu'à ce niveau du pont d'envol?
Bon, il faut compter entre 2 et 3 minutes à peu près.
Combien de poids peut remonter cette plateforme?
Alors, cette plateforme est prévue pour monter au maximum 13 tonnes, en sachant qu'un hélicoptère va jusqu'à 10, 11 tonnes, c'est-à-dire que ça nous permet de déraper un petit peu plus s'il y a besoin.
Et quelques heures plus tard, nous arrivons donc à Brest. Le bateau sera accosté, une opération délicate, car amarrer le Mistral est tout un art, orchestré par le Bosco, maître d'équipage, Richard Frolin.
Le poste de manœuvre est toujours une manœuvre délicate, parce qu'il y a quand même des haussières sous tension, des fils d'acier, des forces assez phénoménales avec les guindeaux, et c'est surtout la sécurité du personnel qui est importante. Donc on peut casser du matériel, mais on n'a pas le droit de casser du personnel.
Bateau interarmé, le BPC Mistral, après une escale au Havre, sa ville marraine, fera route vers Toulon, son port d'attache. Et il est prêt maintenant à intervenir pour toute mission. Merci à Cécile Bonici pour la réalisation d'Espace Océan, son mise en onde dans le Grand de Sade. Bon vent à tous, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir et merci.